Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'affaire d'un sans domicile fixe qui a tué sauvagement et gratuitement une mère de famille qui l'hébergeait. Tout commence le 20 avril 2007. Un petit garçon de 4 ans est retrouvé en pleine nuit errant tout seul en pyjama rue Saint-Germain à Compiègne dans l'Oise. Tout mignon et tout propre, il semble s'être égaré, tombé de nulle part dans cette rue déserte. Alerté par les pleurs du garçonnet, une femme du voisinage le recueille chez elle et essaye de savoir qui il est. Le petit garçon dit s'appeler Ryan et déclare qu'il va à la moyenne section à l'école maternelle. C'est tout. Il ne peut rien dire d'autre. Mais que fait ce garçonnet dehors à cette heure-ci? Et où sont ses parents? Au lever du jour, la dame court au commissariat de police de Compiègne pour les prévenir. On doit absolument retrouver la famille du pauvre petit Ryan. Le lendemain, comme personne n'était encore venu réclamer le petit enfant, la police lance un appel à témoins, à la télévision, pour retrouver les parents. Le garçon est vite reconnu par les amis de la famille, mais Hervé Boutrouille, le papa, est sûr que son fils est en sécurité chez sa maman. Ce ne peut pas être son Ryan à lui. La police se présente sur le lieu de travail d'Hervé et lui montre la photo de l'enfant. Le papa n'en croit pas ses yeux, il reconnaît immédiatement son fils. Lui qui pensait qu'il était à l'abri chez sa maman, Stéphanie Frérard. Les parents de Ryan sont séparés, et ce jour-là, il était censé être chez sa mère. Alors où est-elle? Et pourquoi ne garde-t-elle pas son fils? C'est une femme responsable et ce n'est pas dans son habitude d'abandonner son enfant. Les policiers se présentent chez elle, à l'appartement du square Gallieni à Compiègne, et découvrent alors une scène d'horreur. Les policiers y découvrent le corps inanimé de Stéphanie, couvert de plaies et d'ecchymoses. Elle aurait succombé à des coups donnés avec un objet perforant. Selon les voisins, un homme d'une vingtaine d'années aurait été aperçu quittant les lieux à bord de la voiture de la victime. La scène de crime révèle des empreintes digitales évidentes. Ce sont celles d'un certain Johan Gorju. C'est un petit délinquant de 19 ans sans domicile fixe. La gentille et généreuse Stéphanie l'hébergeait depuis quelques jours chez elle dans son appartement. Une recherche est lancée, mais l'agresseur présumé ayant un frère jumeau, cela s'avère compliqué. Après une longue traque à travers tout le pays, Johan Gorju a finalement été interpellé 5 jours plus tard au volant de la voiture de Stéphanie Frérard à Cournon, dans le Puy-de-Dôme, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Lors de son audition, le meurtrier présumé se montre hagard mais coopératif. Lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs de la direction interrégionale de police judiciaire de Lille, dans les locaux du SRPJ de Clermont-Ferrand, il avoue avoir tué la malheureuse Stéphanie Frérard par jalousie. On procède à son arrestation et on l'envoie à la prison de Liancourt. Le juge d'instruction compiénois, Sylvain Maéo, prend les choses en main et procède à la reconstitution des faits. La seule façon pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce crime sordide et gratuit. Pendant près de 3 heures, magistrats, avocats et policiers ont scrupuleusement reconstitué le scénario du crime dans l'appartement de Stéphanie Frérard. Johan Gorju répète les gestes qui l'ont conduit au meurtre de celle qu'il avait rencontrée quelques jours plus tôt dans une boîte de nuit de la cité impériale. Elle l'avait ramené chez elle, mais pour Stéphanie, c'était très clair depuis le début. Ce n'était qu'une relation d'un soir. Elle ne voulait pas s'attacher. Avec tact, elle a essayé de lui faire comprendre qu'il devait partir. Mais lui, il traînait des pieds, refusant de quitter l'appartement. Elle était trop gentille pour le mettre à la porte et il en a profité. Stéphanie avait 41 ans au moment du drame. Tout le monde dit d'elle que c'était une battante. Juste après la naissance de Ryan, elle s'était séparée de son compagnon et avait surmonté un cancer. À peine remise de sa maladie, elle dévorait la vie et sortait énormément. Elle refusait de se confiner et de ne pas profiter de toutes ces joies qui représentent la vraie valeur de la vie. Elle ne voulait rien rater et dans sa frénésie, elle écumait les fêtes, les discothèques et les bars de la ville. Et c'est là qu'elle a fait la rencontre fatale de Johan Gorju, 3 jours avant sa mort. Mignon, jeune et timide, rien ne pouvait présager qu'il pouvait être violent. Par malchance, ce jour-là, Stéphanie était tombée sur un mauvais numéro. Effectivement, Johan Gorju s'est avéré être un jeune homme fragile, avec un parcours chaotique. Il a eu une enfance malheureuse, lui et son frère jumeau. Dès leur naissance, les deux enfants ont été totalement rejetés par leur mère. Mis à l'écart du reste de la famille, à 10 ans, ils sont totalement abandonnés. Placés de foyer en foyer, ils sombrent dans la délinquance. Johan souffre donc d'une carence affective depuis l'enfance. Personne ne lui a jamais vraiment témoigné de l'affection et de la tendresse. sauf peut-être Stéphanie pendant ces 3 jours. Et ce jour-là, lorsque Stéphanie avait récupéré son fils pour le week-end, elle avait dû parler un peu plus sèchement à Johan. Elle voulait qu'il la laisse profiter de son fils toute seule. Ce qui était tout à fait normal. Mais là, Johan s'est senti rejeté une énième fois. Il a vu rouge. Et c'est ce qui l'a fait entrer dans une colère sans bornes contre Stéphanie. Cette mégère qui voulait se débarrasser de lui comme d'une chaussette malpropre. Il fulmine et enrage tellement qu'à un moment de folie, dans la cuisine, il perd la tête, surprend la malheureuse et commet l'irréparable. Il fait preuve d'une violence inouïe vis-à-vis de la jeune femme et c'est à coups de casserole, de ciseaux, de barreaux de chaise et de manches à balai qu'il la frappe avec acharnement avant de l'étrangler, puis de l'étouffer avec un sac poubelle et un coussin. Quelques instants plus tard, quand il réalise qu'il venait de tuer Stéphanie alors que son petit garçon dormait dans la pièce d'à côté, il panique et tente de maquiller grossièrement le crime en lavant les traces de sang et ses empreintes. Mais en vain. Il n'arrive pas à effacer grand-chose. Il s'impatiente et lâche tout. Il réveille le petit garçon et l'habille à la hâte. Dans sa lucidité de petit escroc, il n'oublie pas d'emporter des objets de valeur, dont la carte bancaire et le portable de la victime, et de prendre la fuite à bord de la petite Citroën C2 grise de sa victime, tout en emmenant avec lui le petit Ryan. Que va-t-il faire de l'enfant ? Johan Gorju montre au policier le trajet de voiture qu'il a emprunté avant d'abandonner le petit, à proximité de l'église Saint-Germain. Il n'avait aucune intention de le kidnapper, il voulait juste l'éloigner de la scène de crime pour qu'il ne soit pas traumatisé à la vue de sa mère. Un sursaut d'humanité ? Il s'est ensuite rendu chez des amis, 2 couples de jeunes délinquants, afin d'écouler la marchandise volée. Ses complices lui portent main forte et l'hébergent à tour de rôle. Mais la police réussit à intercepter toute la bande et à tous les placer en garde à vue dans le cadre d'un recel. La mère d'un des jeunes interpellés va plus tard apporter plus d'éclairage sur la personnalité de Johan. Elle révèle au policier que Johan a déjà été inquiété dans une affaire de viol il y a quelques années. Agressif et sans scrupules, Johan circulait toujours en scooter à la recherche d'un mauvais coup. Il s'attaque toujours aux plus faibles que lui, des plus jeunes ou des femmes. Stéphanie Frérard correspondait à la description de ses victimes habituelles. Elle avait une silhouette frêle et parlait facilement avec les gens. D'après une habituée d'une des boîtes de nuit où elle allait, Stéphanie aimait s'entourer de personnes plus jeunes qu'elle. Lundi 15 mars 2010, à la cour d'assises de l'Oise, c'est le premier jour du procès de Johan Gorju. La famille de Stéphanie Frérard est là. L'audience commence. L'accusé entre dans le box. Il a déjà fait 3 ans de détention provisoire pour le meurtre de Stéphanie. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À la surprise de tous, Johan prend la parole. Il reconnaît les faits et réclame la prison à perpétuité pour l'acte odieux qu'il a commis. Il veut en finir et refuse d'autres questions. À la suspension de l'audience, son avocate, maître Isabelle de Saint-Andrieux, demande à s'entretenir. Elle veut le raisonner, le pousser à demander pardon, car c'est ce que l'on attend de lui. Les débats reprennent, mais à chaque question du président de la cour, l'accusé répond par des silences qui exaspèrent. La famille de Stéphanie prend cela pour un affront à la justice. Il est évident qu'il ne montre aucun remords et aucun regret pour ses actes. L'avocat général, Cédric Logelin, demande 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. Il ne parle pas de perpétuité car au moment des faits, Johan n'avait pas encore 20 ans. L'avocate de Johan, maître Isabelle de Saint-Andrieux, explique longuement que les déchaînements de violence dont fait preuve son client, ainsi que les agressions sexuelles et les actes de délinquance, ne sont que le fruit d'un désir enfoui de vengeance envers sa mère, qui l'a maltraité et l'a fait agir ainsi. Dans son réquisitoire, Cédric Logelin insiste sur le fait que Johan Gorju est un individu perturbé, qui, quand il veut quelque chose, il faut qu'il l'obtienne par tous les moyens. Il ne pense qu'à lui et fuit systématiquement pour échapper à la justice. Il ment pour apitoyer ses victimes, se pose en victime, ne se remet jamais en question. Lors de la dernière journée de son procès, Johan Gorju tente de donner une explication à son geste. Il regarde enfin la maman de Stéphanie dans les yeux et essaie de s'excuser à sa manière. Il explique s'être transformé en meurtrier par vengeance. Pas envers sa victime qu'il avait accueillie et avec qui il a entretenu une courte relation amoureuse, mais envers sa mère qu'il a placée très jeune dans des foyers. Toute la famille de Stéphanie se tait dignement, car rien, absolument rien de ce qu'il pourrait dire ne peut atténuer la douleur subie. Il ne peut plus faire revenir Stéphanie, fille, sœur et mère, morte gratuitement à cause d'une folie vengeresse. Et Ryan, le petit Ryan, sera privé à jamais de la présence de sa maman. Il n'a rien demandé, lui, pour subir les névroses et la vengeance injustifiable de Johan. Il a fallu près de 7 heures aux jurés et magistrats pour statuer sur le sort de Johan Gorju. Et le verdict tombera finalement plus tard dans la nuit, à peu près vers 2 heures du matin. Un verdict identique à ce qu'avait réclamé l'avocat général quelques heures auparavant. Johan écope de 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. L'avocat général a également requis de la prison ferme envers les deux couples présents, les quatre accusés qui comparaissaient libres pour recel d'effets volés au domicile de Stéphanie et non dénonciation de crime. Ils seront finalement condamnés à des peines allant de 6 mois avec sursis à 6 mois ferme. C'est chez eux que Johan était allé se réfugier après avoir commis le meurtre de Stéphanie. Johan Gorju ne va pas faire appel de la décision. Le jugement est donc définitif. Force est de constater que cette affaire nous laisse un goût amer, un goût de gâchis, quelque chose que l'on n'arrive pas à cerner. Car à moins que l'on ne soit fou, peut-on exiger de l'affection un coup de violence ?